celle de l'OTAN d'Afghanistan, prévue pour le 11 septembre de cette année.
Merci beaucoup Jacques. Et pour le débat, nous avons trois invités. En Normandie, en France, nous avons Patrick Chevalereau, consultant international, ancien amiral dans la marine française et spécialiste des questions transatlantiques et de défense européenne. À Annapolis, ici dans le Maryland, nous avons Jean-François Seznec, économiste et politologue au Atlantic Council. Et à Washington, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, ancien diplomate américain. Merci à tous d'être avec nous. Et je reste avec vous, Herman Cohen. Il a été beaucoup question lors de ce voyage de Joe Biden en Europe du retour du leadership américain, aussi bien dans le G7 qu'à l'OTAN. Est-ce qu'on peut dire que les relations entre Washington et ses alliés traditionnels ont été réparées après l'ère Trump?
Je crois que la réponse est oui. Trump a dit l'OTAN, ça vaut rien, ça coûte très cher, c'est l'Amérique qui protège tout le monde. Mais Biden a dit c'est une vraie alliance, tout le monde protège tout le monde et nous sommes de retour. Je crois que Biden est très sincère et les alliés croient en Biden maintenant. Donc je crois que le problème que Trump a créé est réparé maintenant, 100%.
Jean-François Seznec, avec Biden, est-ce qu'on peut parler de retour au multilatéralisme en opposition un peu à la politique de Trump et comment est-ce que cela peut bénéficier aux deux parties?
Écoutez, il est certain que le multilatéralisme se redéveloppe, ce qui a été bien sûr oublié sous Trump. Je pense que le problème, c'est que tout le monde voit ça de façon très positive, mais la confiance a été un peu perdue. Et les Européens et le reste du monde, en fait, se demandent vraiment si ce multilatéralisme, à long terme, pourra rester au cas où il y aurait encore des changements politiques à l'intérieur des États-Unis, ce qui pourrait très bien se passer. On ne sait pas vraiment comment vont être les élections dans 4 ans maintenant, mais il y a le multilatéralisme est très positif pour le monde entier, bien sûr. Je pense que c'est effectivement vu comme ça, mais le fait que Biden est en train de créer une coalition, si vous voulez, à utiliser contre la Chine et contre la Russie, est très positive, mais les Européens en particulier n'ont pas entièrement confiance, si vous voulez, qu'à long terme, ça se fasse bien.
Justement, Patrick Chevalereau, Joe Biden a réitéré l'engagement des États-Unis au sein de l'OTAN, mais on sait que Emmanuel Macron, par exemple, a souvent poussé pour un plan de défense européen plus robuste. Comment tout cela va être influé par les assurances de Joe Biden?
Oui, je crois d'abord que pour les Européens, le retour d'une Amérique multilatérale qui a un ton civilisé est une excellente nouvelle et c'est un soulagement en fait. Parce que c'est vrai, mon prédécesseur le disait là, les années Trump ont été un véritable traumatisme pour les Européens. Avec une mise en cause de la solidarité au sein de l'alliance, c'est-à-dire une mise en cause des fondements mêmes de l'alliance atlantique. Alors c'est vrai que le président Emmanuel Macron, pendant les années Trump, a, on va dire, avec quelques autres, avec la Commission européenne, poussé l'agenda européen, poussé l'agenda d'une défense européenne. Mais comme Jean-François Seznec le disait très bien, même s'il y a un changement à la Maison-Blanche, même s'il y a une nouvelle administration qui est beaucoup plus pro-européenne et multilatérale, les années Trump ont laissé des traces. Et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait dans 4 ans, dans 8 ans, à l'occasion d'une nouvelle élection présidentielle américaine. Donc les acquis du développement d'une défense européenne en partenariat avec les Américains. Alors on parlera peut-être, je ne sais pas, du sommet entre les États-Unis et l'Union européenne, qui dans la séquence des quatre grands événements qui vient de se terminer ce soir, est aussi un sommet important, ce sommet États-Unis-Union européenne, et où il est question, pour la première fois, de défense et de sécurité, de partenariat entre les États-Unis et l'Union européenne en termes
et
de
défense et sécurité. Et on a vu des avancées importantes. Des avancées importantes sur, par exemple, le dossier de Boeing.
Oui, on a effectivement en vue maintenant une résolution du conflit entre Airbus et Boeing. On a des choses extrêmement positives dans ce dialogue qui enfin s'instaure après encore une fois les quatre années de traumatisme que nous venons de vivre dans la sphère euro-atlantique.
D'accord. Alors, Herman Cohen, le voyage de Joe Biden en Europe a été bien vu hein, par les dirigeants européens, comme tout le monde vient de le dire. Et l'image des États-Unis s'est améliorée dans le monde depuis l'investiture de Joe Biden, selon un sondage du centre de recherche Pew. Mais pour des républicains comme Mike Pompeo, on l'a entendu, cela veut aussi dire que Joe Biden ne défend pas très bien les intérêts des États-Unis. Comment, ou plutôt, où se situe l'opinion publique américaine sur le rôle que les États-Unis doivent jouer dans le monde aujourd'hui?
Selon les derniers sondages, l'alliance de l'OTAN et avec les Européens dépasse 60%. Donc les Américains sont pour. Mais de l'autre côté, l'ancien président Trump reste très populaire dans une certaine couche de la population. Et donc, c'est pas impossible dans la prochaine élection présidentielle en 2024 qu'il y a, pas M. Trump, mais quelqu'un comme lui qui peut être élu. À mon avis, ce sera très peu probable. Mais ce que je voudrais dire, que c'est la popularité de Trump dans une certaine couche de la population, disons, 35% est toujours très forte. Donc, il faut se méfier. À mon avis, ça va disparaître d'ici 2024. Monsieur Trump parle beaucoup ces jours-ci, mais il parle sans beaucoup de logique. Il dit des bêtises tout le temps. Donc, à mon avis, il va disparaître comme politicien. Mais le Trumpisme peut continuer. Et ça, c'est un problème culturel. Il y a des certains gens qui voient que les gens de couleur vont avoir majorité d'ici 2050. Ils ont peur de ça.
D'accord. Alors, Jean-François Seznec, sur la Chine, les États-Unis et certains pays européens ne parlent pas forcément le même langage sur l'approche, en tout cas, qu'il faut avoir. Mais tout le monde est d'accord sur la montée en puissance de l'économie chinoise et donc de son influence dans le monde. Comment est-ce que les Occidentaux devraient approcher l'expansion chinoise que l'on voit dans, par exemple, en Afrique ou ailleurs?
Vous me demandez un peu un miracle là. J'avoue que je ne sais pas vraiment comment il faut approcher l'issue de la Chine, qui est très 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 importante. Il est certain que l'administration Biden essaye de faire une alliance solide entre l'Europe en particulier et les États-Unis pour essayer de contrer un peu les intérêts chinois, mais la Chine est extrêmement puissante, a une politique très sérieuse. Ils avancent leur pion petit à petit de façon très très forte, hein. Le Belt and Road Initiative, hein, qui est vraiment l'idée du président Xi est très forte et gagne beaucoup d'influence dans le monde entier, y compris même au Moyen-Orient, qui est une région qui m'intéresse particulièrement. Mais est-ce que c'est l'alliance entre l'Europe et la Chine et les États-Unis peut contrer la Chine et les efforts de la Chine sur Taïwan, en particulier sur la mer de Chine, je ne sais pas si ça va marcher, parce que est-ce que les Européens auront vraiment envie de prendre des risques militaires, même importants. Je vois que la France a des navires maintenant dans la mer de Chine, ce qui est très très intéressant, vraiment. Et les Américains ont aussi des navires, donc il y a quand même une certaine coopération, si vous voulez. Mais est-ce que vraiment ce serait une coopération à long terme et qui serait assez forte, je ne sais pas.
Patrick Chevalreau, sur la Chine, comment faut-il approcher?
Oui, alors c'est vraiment c'est la grande question, la question de la Chine et la question des défis de sécurité que la Chine pose. Parce que là, en évoquant la question des défis de sécurité, je ne fais que reprendre le communiqué qui a été approuvé par les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN. On a également, dans le communiqué du sommet Union européenne-États-Unis, qui s'est terminé hier, on a également un paragraphe sur la Chine et qui pointe du doigt le comportement de la Chine. Alors, bien sûr, les États-Unis et les Européens ne sont sans doute pas complètement alignés sur la question du danger que représente la Chine, en tout cas sur la question de la manière dont il faut le traiter. Mais moi, ce que j'observe, c'est que la France, puisque la France était à l'instant évoquée, effectivement, la France, en 2019, a édité une stratégie indo-pacifique qui comporte un gros volet de sécurité. Et j'observe aussi qu'un certain nombre de pays européens, l'Allemagne, les Pays-Bas, à leur tour, produisent des stratégies indo-pacifiques. Et puis, l'Union européenne elle-même, le Service européen d'action extérieure, produira à l'automne, je crois, une stratégie indo-pacifique. Donc l'Europe s'intéresse à l'indo-pacifique, y compris sous les aspects de sécurité et pas que sous les aspects commerce. Et je crois qu'avec les États-Unis, eh bien le dialogue est engagé. Et la séquence diplomatique là qui s'achève ce soir, la séquence européenne Biden a largement abordé la question. Donc on est dans un processus dynamique là. On n'est pas au bout du chemin. Et je crois que le dialogue sur ces questions-là entre les deux rives de l'Atlantique va continuer à se poursuivre, parce qu'il y a une communauté d'intérêts et il y a aussi et surtout, je dirais, une communauté de valeurs. Et c'est ça qui me semble important dans la séquence diplomatique qui s'achève. Les Américains et les Européens se sont retrouvés sur la question des valeurs, et notamment vis-à-vis des régimes autoritaires, et au premier rang desquels, effectivement, la Russie et la Chine.
D'accord. Alors, voici juste quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Alphonse Mbouaki à Kinshasa qui nous dit que l'alliance entre les États-Unis et l'Union européenne constitue une force contre la montée exponentielle de la puissance économique de la Chine, mais également contre la menace russe en Europe. Archiduc Théodore est à N'Djamena au Tchad. Il écrit « La participation de Joe Biden au sommet de l'OTAN est un retour gagnant des États-Unis dans une stratégie de leadership. » Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum, et je rappelle mes invités depuis la Normandie en France, Patrick Chevalreau, consultant international, ancien amiral dans la marine française et spécialiste des questions transatlantiques et de défense européenne, ici dans le Maryland, précisément à Annapolis, Jean-François Seznec, économiste et politologue à Atlantic Council, et à Washington, Herman Cohen, ancien diplomate américain, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Alors Patrick, comment les relations entre Washington, les Occidentaux de façon générale, et la Russie vont changer après le tête-à-tête Biden-Poutine, selon vous?
Je dirais que nous sommes quand même dans un point bas actuellement, un point très bas des relations entre les démocraties occidentales et la Russie de Vladimir Poutine. Il me semble que l'objectif de Biden, mais l'ambassadeur Cohen pourra apporter des précisions là-dessus, est à la fois de stabiliser une situation pour qu'elle ne se détériore pas davantage, mais elle est aussi de passer un message et de passer un avertissement à la Russie, un message de fermeté. Et on peut constater que cette séquence Joe Biden-Vladimir Poutine, elle intervient après les trois autres événements qui ont eu lieu ces derniers jours, donc une séquence tout à fait logique. Les communiqués ont été signés. 14 paragraphes du communiqué OTAN sont dédiés à la Russie. Le langage est extrêmement ferme vis-à-vis de la Russie. Donc on a un camp occidental entre guillemets qui est dans une posture de fermeté. Je crois que c'est le message qui est en train d'être passé par Joe Biden.
Alors Jean-François Seznec, l'OTAN, c'est vrai, avec cette rencontre, est-ce que l'OTAN, dans sa formule actuelle, est toujours d'actualité si on veut faire face à la menace russe, selon vous?
Oui, je pense qu'effectivement l'OTAN est quand même une puissance militaire importante, et il y a toujours une leadership américaine dans l'OTAN qui existe et qui existera encore pendant longtemps. Je pense que il y a quand même aussi des problèmes économiques qui sont très importants et qui comptent aussi. Par exemple, le fait que les Russes ont finalisé très très bientôt le pipeline entre la Russie et l'Allemagne par l'intermédiaire de la mer Baltique compte énormément. Et ça, c'est une faiblesse. Si vous voulez, les Européens sont vraiment maintenant à la merci de la Russie pour tous ses intérêts économiques, pour les intérêts énergétiques. Mais d'un autre côté, il est certain, une autre faiblesse, si vous voulez, de l'OTAN, c'est qu'à l'heure actuelle, l'OTAN se développe beaucoup, et ce serait intéressant de voir ce que Patrick et l'ambassadeur ont à dire là-dessus, mais le fait que l'Ukraine et aimerait faire partie de l'OTAN, et que beaucoup de gens aimeraient que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, est quand même très très dangereuse, parce que la Russie pourrait utiliser ça comme ils ont utilisé les problèmes de Crimée pour augmenter leur présence dans la région. Donc les problèmes sont vraiment très compliqués en ce moment, je trouve.
Et Herman Cohen, justement, Jean-François Seznec évoquait le cas de l'Ukraine. Pour vous, quelle est la plus grande menace que pose la Russie à cette alliance l'OTAN?
Je crois que la Russie tolère des opérations d'attaque cyber contre les sociétés privées, soit en Europe, soit aux États-Unis. Ça, c'est intolérable. Donc, il faut que Poutine organise que ces voyous soient arrêtés. Et aussi, la guerre contre l'Ukraine, ça, c'est très, très mauvais. C'est l'agression pure, n'est-ce pas? Et en général, la Russie est une menace militaire surtout. La Russie n'a rien à offrir dans le domaine économique. Donc je crois qu'il faut que l'OTAN et Biden doivent envoyer un message à Poutine de ce que vous faites est intolérable et il faut arrêter. Et peut-être il y a des sujets où nous pouvons coopérer, par exemple, le réchauffement de la Terre.
Alors, Patrick Chevalreux, justement, ambassadeur Cohen a touché un peu à cette question de la cybercriminalité. Quand on parle de la nécessité pour l'OTAN d'intégrer de nouvelles menaces, on pense surtout à cette cybercriminalité, n'est-ce pas? Vous pensez qu'avec les récentes attaques comme celles ayant paralysé le Colonial Pipeline ici aux États-Unis, le G7 et l'OTAN vont investir davantage dans ce secteur?
Oui, absolument. Alors ça fait déjà plusieurs années que l'OTAN s'intéresse aux menaces cyber, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais on va dire que l'OTAN, les capacités de l'OTAN montent en puissance en matière de lutte contre les menaces cyber. Il n'y a pas que les menaces cyber, d'ailleurs, on parle, quand on parle de la manière dont la Russie se comporte, de stratégie hybride. C'est-à-dire que cette hybridité, en fait, est constituée de tout un tas de leviers d'action. On trouve les menaces cyber, mais on trouve aussi la désinformation. On trouve aussi des assassinats ciblés. On trouve aussi l'utilisation d'armes chimiques, comme ça s'est produit avec le Novichok, qui a tenté d'éliminer des opposants en 2018 au Royaume-Uni. Enfin, tout un tas d'actions de subversion qui finalement s'exercent dans une espèce de zone grise qui est située juste au-dessous de ce que finalement les Russes considèrent être le seuil de conflictualité. Mais c'est un comportement extrêmement dangereux parce que quand vous agissez dans cette zone grise, en dessous de ce que vous croyez être le seuil de conflictualité, eh bien vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez faire des erreurs de calcul. Et il y a évidemment des risques d'escalade. Donc l'OTAN travaille beaucoup sur ces questions de menaces hybrides dans lesquelles on trouve la composante militaire, mais pas que la composante militaire. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la complexité des situations et des tensions internationales.
Et pour terminer, une question que je pose à tous les deux, Jean-François Sesnek et Armand Cohen. Sesnek d'abord, Washington voit en cette rencontre Biden-Poutine une manière de réaffirmer les valeurs de la démocratie, le modèle occidental de démocratie. Mais quand on voit la Russie marquer aussi son intérêt dans des pays comme la Centrafrique et même le Mali, même si la coopération avec le Mali n'est pas quelque chose de nouveau. Cela vous fait peur qu'on revive une certaine forme de guerre froide ou bien c'est peut-être aller trop loin?
Non, je pense qu'effectivement il va y avoir ou il y a déjà une guerre froide importante. D'un autre côté, c'est peut-être une chose positive que la Russie soit impliquée maintenant dans le Sahara, dans le Sahel et au Moyen-Orient, parce qu'en fait il y a beaucoup de points en commun entre nos valeurs et nos intérêts et les intérêts russes qui n'ont aucun intérêt à voir l'islamisme se développer de façon dramatique au Sahel et en Syrie, par exemple. Donc, d'un côté, si vous voulez, effectivement, ça ne fait que développer la guerre froide, mais d'un autre côté, ça donne aussi plus d'occasions de coopérer sur certains domaines qui sont moins dangereux que le pipeline dans la mer Baltique ou bien les attaques contre l'Ukraine, si vous voulez.
Ambassadeur Cohen.
Oh, je crois que je suis optimiste. Je crois que la Russie est surtout un pays qui est très faible sur le domaine économique. Leur produit brut, c'est le même que l'État de Californie. Donc la Russie ne peut pas supporter des sanctions économiques. Donc je vois qu'il y aura une entente entre les États-Unis et la Russie. Surtout, ce que Poutine a voulu, c'était de se montrer que moi, je suis dans le même pied d'égalité avec Biden. Voilà, nous sommes photographiés ensemble. Donc, à partir de maintenant, je vois ça plutôt optimiste pour les relations.
Voilà. En tout cas, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Je remercie énormément mes invités et à vous qui nous avez suivis sur notre site voafrique.com, sur la page Facebook de VOA Afrique et à travers nos télépartenaires sur le continent. Je n'oublie pas, bien sûr, toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.